France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La Maison-Blanche annonce un accord avec la Russie et l'Ukraine pour cesser les hostilités en mer Noire. Mais Kiev demande des consultations pour s'accorder sur les détails. Où en est-on? Nous le verrons avec Virginie Pierronneau. La contestation continue en Turquie, tout comme les arrestations, au point que l'ONU réclame des enquêtes. Nous joindrons Marie-Pierre Véro à Istanbul. Au procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, les procureurs du parquet national financier ont entamé un sévère réquisitoire. Ils accusent Nicolas Sarkozy et ses proches d'avoir noué un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent. Yannick Falt est au palais de justice de Paris. Et puis alors que débute une marche silencieuse à Orléans en solidarité avec le rabbin agressé samedi, nous verrons avec Jeanne Stémar comment la crainte des actes antisémites grandit chez les Juifs de France. À l'issue des discussions entre Américains et Russes en Arabie Saoudite, Washington annonce un accord sur une cessation des hostilités en mer Noire. Le principe d'une trêve partielle entre la Russie et l'Ukraine semble donc acquis. Bonsoir Virginie Pierronneau.
Bonsoir.
Et ce même si certains points doivent encore être clarifiés.
Oui, rappelons Aurélie que les nouvelles discussions duraient depuis dimanche soir en Arabie Saoudite. La Maison Blanche a donc fini par publier une déclaration à l'issue des pourparlers tenus avec chacune des deux parties. Et selon les États-Unis, l'Ukraine et la Russie accepte, je cite, d'assurer la sécurité de la navigation en mer Noire, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation des navires commerciaux à des fins militaires. Pour Washington, il s'agit également d'aider à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial des exportations, notamment de produits agricoles ou d'engrais, et de réduire les coûts d'assurance maritime. De son côté, l'Ukraine confirme, par la voix de son président Volodymyr Zelensky et de son ministre de la Défense Roustem Oumerov, les points évoqués par la Maison Blanche, mais avec encore, vous l'évoquiez, quelques nuances en demandant de nouvelles consultations pour s'accorder désormais sur les détails, quelles modalités, quelle mise en œuvre, des questions qui semblent encore loin d'être résolues. D'autant plus que ce soir, Moscou pose des conditions, comme la levée de sanctions, par exemple, contre la Banque agricole de Russie. Moscou demande également la reconnexion de ses institutions financières au système international de paiement SWIFT, alors que Volodymyr Zelensky y est fermement opposé. L'Ukraine, qui par ailleurs avertit déjà, tout mouvement de navires de guerre russe en mer Noire constituerait une violation de ce potentiel accord.
Virginie Pierronneau, l'ONU fait part de son inquiétude face aux arrestations massives en Turquie. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme réclame des enquêtes sur les allégations d'usage illégal de la force contre les manifestants. Depuis le début de la vaste fronde lancée il y a 6 jours, après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, il y a eu plus de 1400 arrestations. Mais les manifestations se poursuivent, et notamment à Istanbul, où se trouve notre correspondante Marie-Pierre Véro.
Ils sont de plus en plus mobilisés, les étudiants, au 7e jour de manifestation. Eux qui ont initié ce grand mouvement de protestation qui dépasse le sort du maire d'Istanbul pour exiger liberté et justice pour tous. Ce mardi, par milliers, ils ont convergé de tous les campus vers un parc du centre pour défiler vers une mairie d'arrondissement dont le maire d'opposition a été remplacé par un administrateur. Ils ne s'arrêteront, disent-ils, que lorsque le gouvernement aura entendu leur voix. Beaucoup avouent avoir peur de la répression, mais disent aussi qu'ils n'ont d'autre choix car ils étouffent dans un pays où désormais toute critique peut valoir embastillement. Le pouvoir aussi durcit sa réponse. Les manifestations sont interdites désormais jusqu'au 1er avril à Istanbul. Les violences policières se font plus prégnantes. Balles en caoutchouc, gaz poivre, lacrymogènes, coups de matraque. 7 journalistes, dont un photographe de l'agence France Presse, ont été incarcérés parce qu'ils couvraient les manifestations. C'est une première que l'arrestation de membres de la presse qui ne font que leur travail, dénonce Reporters sans frontières. Près de 1500 personnes ont été arrêtées depuis mercredi dernier. Les manifestations gagnent désormais plusieurs quartiers de la ville. « Nous sommes debout », me disait un étudiant à l'instant, « et nous le resterons jusqu'à ce que le gouvernement tombe, quel que soit le prix à payer. »
Et le PDG de l'agence France Presse demande la libération rapide de son journaliste. Se trouver là où les événements se produisent, y compris entre des manifestants et des forces de l'ordre, c'est le travail d'un photographe, déclare-t-il. Yassine Agul est l'un des meilleurs représentants de cette profession et sa valeur est reconnue dans le monde entier. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a relancé la course à l'autonomie européenne qui passe par les approvisionnements en métaux critiques. L'industrie en a besoin pour les batteries des voitures électriques, mais aussi pour l'armement. La Commission européenne a donc dévoilé une liste de 47 projets d'extraction minière, de recyclage ou de transformation de métaux critiques qu'elle compte accélérer. Les précisions de Fabien Cazot à Bruxelles.
C'est devenu un enjeu de souveraineté aux yeux de la Commission. L'approvisionnement en métaux doit devenir plus européen. Objectif, ne plus dépendre du bon vouloir de puissances étrangères soumises aux aléas géopolitiques. Le lithium chinois ne doit pas devenir le nouveau gaz russe, martèle le commissaire européen chargé de l'industrie, Stéphane Séjourné, qui a dressé la liste ce midi des domaines dans lesquels les besoins sont les plus criants.
Il n'y a pas de décarbonation possible sans gallium pour construire des panneaux solaires, sans cuivre pour acheminer l'énergie et l'électricité, pas d'industrie de défense sans terres rares qui rentrent dans la composition de nos radars, de nos sonars, de nos systèmes de ciblage, pas d'industrie tout court sans cuivre et sans aluminium, et on doit aujourd'hui extraire plus et ouvrir plus de mines en Europe.
La Commission européenne souhaite permettre aux porteurs de projets d'accélérer dans le domaine de l'extraction, mais aussi du recyclage et de la transformation des métaux. Elle promet notamment de nouveaux financements à hauteur de 2 milliards d'euros sous forme de prêts, de subventions et autres garanties bancaires.
Fabien Cazot à Bruxelles. Le procès du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a débuté le 6 janvier et c'est maintenant l'heure des réquisitions devant le tribunal judiciaire de Paris. Des réquisitions marathon qui doivent normalement durer 2 jours et demi. Le parquet national financier a donc débuté son intervention cet après-midi. Vous êtes sur place, Yannick Falt, bonsoir.
Bonsoir.
Et la charge du ministère public est violente, Yannick.
Oui, signé de l'un des 3 procureurs du parquet national financier dans ce procès, Philippe Jéglé, qui évoque un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent. Pacte conclu avec un régime sanguinaire, celui du dictateur Muammar Kadhafi, pour soutenir financièrement la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Pacte qui aurait pu vicier le résultat de l'élection. Pacte qui risquait de porter atteinte à la souveraineté de la France en se retrouvant sous influence libyenne. Un dossier émaillé de mensonges, d'interférences, de manipulation, poursuit le procureur. Une affaire de toxicité de la relation entre hommes politiques français, intermédiaires, dirigeants peu démocratiques et industriels. Coup d'envoi d'un réquisitoire débuté il y a près de 4h30 maintenant, avec les procureurs qui se relaient. Intervention du PNF, attentivement écoutée par l'ancien chef de l'État, qui prend des notes, commente à haute voix parfois, sourit, hausse les sourcils, regarde sa montre, se tourne vers ses avocats, les jambes agitées souvent, lui qui n'a cessé de dire qu'il n'y avait rien dans le dossier, pas un centime d'argent libyen dans sa campagne. Nicolas Sarkozy, qui risque théoriquement jusqu'à 10 ans de prison, devra patienter pour connaître la peine demandée par le PNF. Ce sera la fin des réquisitions, jeudi en fin de journée.
Yannick Falt avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. La médiatisation des affaires Abbé Pierre et Notre-Dame de Bétarame ont fait encore affluer de nouvelles demandes. Au total, depuis 2022, 1580 victimes de pédocriminalité dans l'église ont saisi l'INIR, l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation. Ce matin, en présence de personnes qui ont été victimes de viols de la part de religieux, l'instance a dressé le bilan de ses 3 ans d'activité. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Vous avez notamment joint Gilles Tillet, 53 ans, violé à l'âge de 10 ans par le père Bernard Prénat, qui a été condamné en 2020 à 5 ans de prison pour des agressions sexuelles sur mineurs et qui est décédé en juin dernier.
Gilles Tillet se présente, scénariste, issu d'un milieu catholique, bourgeois, type Bétarame, avec la sévérité qui va avec, s'empresse-t-il d'ajouter. Bon élève, diplômé, pourtant 20 ans au RSA, 15 ans en analyse, plus de 500 séances après ces violences. L'INIR a été pour lui une chance, une mise en place des intelligences pour mettre un cadre. Gilles Tillet.
Violer un gosse, ce n'est pas rien. Ça veut dire concrètement quelque chose. Et en réponse à cet acte extrême, on ne peut pas avoir une réponse autrement qu'une réponse cadrée, ordonnée, rigoureuse. Et c'est ce que propose l'INIR. C'est-à-dire, l'INIR propose des gens qui sont des gens capés, entre guillemets, ce que je leur dis souvent. Je dis, vous êtes capés pour m'accompagner, rencontrer l'évêque de Lyon, par exemple.
Le père Loïc Lagadec, évêque auxiliaire de Lyon, en l'occurrence, qui lui demande pardon.
Et je lui dis, mais moi, votre pardon, je m'en fous. Je veux que vous reconnaissiez que vous êtes un criminel. couvrir comme ça, à ce point-là, des viols, ça s'appelle un crime. Monsieur, vous êtes un criminel. Et il a dit, je suis complice d'un crime. Et pour moi, ça a été une grande étape, parce qu'avant tout, violer un gamin, je reviens toujours sur ça, c'est un crime.
Selon Myriam Dubois, référente à l'INIR, il est grand temps d'aider collectivement les victimes à passer d'objet de la mémoire implicite à sujet de la mémoire explicite. Explication.
Avec cette déconnexion qui se fait au niveau cérébral quand un stress est trop fort, eh bien, il y a des choses à reconnecter. Chaque émotion vécue 40 ans après, elle vient comme un élastique trop tendu parce qu'il y a eu cette peur qui n'a pas pu, par l'enfant qu'il était, être exprimé ou être accueilli, puisqu'il y a eu disjonctage. Donc, remettre de la temporalité dans ce qu'ils ont vécu permet en fait de se réapproprier cette histoire de vie et de l'intégrer mieux dans leur vie actuelle. Donc là, la mémoire devient explicite et ça devient une histoire qu'on peut raconter, autobiographique.
Les membres de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation destinée aux victimes de les diocèses ont à ce jour accompagné 1235 personnes.
Merci Mathieu. La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle? C'est la deuxième question du soir que posera Quentin Lafay. Rendez-vous à 19h. Une marche silencieuse vient de commencer à Orléans à l'initiative de l'Union des étudiants juifs de France, de la communauté juive d'Orléans et de la LICRA. Elle est organisée pour soutenir le rabbin agressé samedi dernier dans le centre-ville d'Orléans. Un jeune de 16 ans l'a insulté, frappé et lui a craché au visage. Depuis le 7 octobre 2023, après les attaques perpétrées par le Hamas en Israël et la réponse militaire qui se poursuit toujours dans la bande de Gaza, les actes antisémites ont fortement augmenté en France, engendrant aussi une crainte de plus en plus forte d'être agressée, Jeanne Stémar.
Youssef Murciano est président de l'Union des étudiants juifs de France et il le sent. Certains membres de la communauté ont peur et réfléchissent même à des façons de se dissimuler dans la foule.
Il y a un réflexe naturel de se dire peut-être qu'il faut que je me cache, peut-être qu'il faut que je me camoufle, que j'enlève ma kippa, que je descende la mezouza de ma porte ou que je change mon nom sur l'application Uber ou sur ma boîte aux lettres.
Ces réflexes inquiètent le président de l'association. Il lui rappelle des pans très sombres de l'histoire de France.
En réalité, c'est exactement l'objectif des antisémites, de faire en sorte qu'on réfléchisse à se camoufler, de faire en sorte qu'on s'organise nous-mêmes pour qu'ils y arrivent. Ils y arrivent de ne plus voir de juifs dans la rue. Les juifs de France, quand ils se cachent, quand on entend les juifs de France se cacher, on entend aussi l'histoire de 39-45, des rescapés de la Shoah qui se sont cachés dans des caves, etc. Et tout ça, en fait, c'est délétère. On ne va pas en revenir à ça, au contraire.
Une référence historique qui ne convainc pas Marielle Matar-Bonucci, historienne et en charge du groupe de travail sur l'éducation dans les assises contre l'antisémitisme, relancé par le gouvernement mi-février.
Sous Vichy, il y avait un État qui menait une politique antisémite. Aujourd'hui, cet antisémitisme, il ne vient pas de l'État, il vient de segments de la société. C'est là que la puissance publique, l'État républicain, doit effectivement jouer son rôle pour qu'il n'y ait pas d'endroit où, parce qu'on est juif, on se sent effectivement exposé à de la haine ou à de la violence.
L'une des pistes évoquées par les assises contre l'antisémitisme, mettre l'accent sur l'éducation, car 42% des auteurs d'actes antisémites ont moins de 35 ans, et en milieu scolaire, ces actes antisémites s'intensifient.
Jeanne Stémar, la marche silencieuse est partie de la synagogue d'Orléans pour rejoindre la place de la République d'Orléans. La Cour des comptes s'est penchée sur les comptes et la gestion du CNRS, le premier organisme de recherche en Europe, qui a un budget de 4,1 milliards d'euros et emploie quelque 34 000 agents. Peut-il améliorer ses performances et son attractivité? Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Les magistrats de la rue Cambon ont émis 14 recommandations dans ce sens, mais dans l'ensemble, le CNRS passe plutôt pour un bon élève.
Bah oui, et c'est assez rare de le dire dans le domaine de la recherche, mais le CNRS, avec ses 34 000 agents, dont près de 11 000 chercheurs, a aujourd'hui des moyens financiers importants et en croissance, ou pour le dire autrement, des comptes sains, écrit la Cour des comptes. Son budget s'élève à plus de 4 milliards d'euros, dont les trois quarts sont consacrés aux dépenses de personnel, et cette enveloppe n'a cessé d'augmenter depuis 2013. D'abord parce que l'État a versé 400 millions de plus en 10 ans, notamment dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Vous savez, cette loi qui prévoit que l'État doit consacrer une part croissante de son PIB au financement de la recherche. Ensuite et surtout, parce que les ressources propres du CNRS ont augmenté, et ce de près d'un milliard d'euros en 11 ans. C'est aujourd'hui un quart de son budget. Pourquoi ? Eh bien parce que le CNRS est très performant dans les appels à projets de recherche et a donc réuni de nombreux financements publics et privés. Il s'est aussi enrichi en facturant au privé l'utilisation de ses équipements, ce qu'il ne faisait pas jusqu'ici. Le problème, écrivent les magistrats de la Cour des comptes, c'est que ce petit magot, eh bien, ce sont des ressources dormantes, disséminées dans plus de 1130 unités de recherche du CNRS. La Cour des comptes préconise donc d'urgence de mettre en commun tous ces moyens afin d'acheter, tiens, pourquoi pas, de nouveaux équipements, mais aussi d'augmenter les dotations pour les chercheurs et notamment les jeunes chercheurs. Parce que malgré cette situation financière saine, le CNRS est en perte d'attractivité, Aurélie. Un tiers de ses effectifs a plus de 55 ans et l'organisme n'attire plus les jeunes puisque les candidatures ont diminué de 36%. En 10 ans, alors même que les concours sont parfois 4 fois moins sélectifs qu'auparavant. La Cour recommande donc de distribuer des primes individuelles pour les personnes les plus investies, de mieux financer les postes doctorants et surtout d'alléger le fardeau administratif qui détourne les chercheurs du CNRS et notamment les chercheurs étrangers qui représentent pourtant un tiers des effectifs de cet organisme d'excellence scientifique.
Cécile de Kervas-Douai. Et si les arts pouvaient favoriser une prise de conscience du changement climatique ? Le dossier de ce journal est consacré à une opération nationale lancée par le musée d'Orsay, 100 œuvres qui racontent le climat. L'ambition de cette opération, faire entrer en dialogue l'art et les sciences partout en France. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
De mars à juillet, une trentaine de musées accueillent ces œuvres et invitent leurs visiteurs à réfléchir aux évolutions des paysages et de la biodiversité depuis le milieu du 19e siècle.
C'est une opération pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux grâce à une lecture culturelle et elle a été construite avec l'appui d'experts sur le climat, précise la commissaire du projet Servane Darny de Vitry, conservatrice peinture au musée d'Orsay.
Avec des paléoclimatologues, une hydrologue, un écologue, nous avons travaillé avec eux et recueilli leurs analyses qui racontent une histoire du changement climatique depuis 1850, qui est le point de départ de nos collections au musée d'Orsay. C'est une époque de révolution industrielle et les artistes ont saisi ces bouleversements profonds qui marquent le début de ce qu'on appelle l'Anthropocène, qui est une nouvelle ère géologique définie par l'impact déterminant des activités humaines sur la planète.
Et de Monet à Sisley, en passant par Signac, Courbet, Théodore Rousseau, les peintres que présente le musée d'Orsay ont tous en commun d'avoir un rapport très fort au réel.
Les peintres de Barbizon, les réalistes, naturalistes, impressionnistes, ont, explique Servane Darny de Vitry, comme photographié le changement progressif des paysages.
Les peintres du musée d'Orsay sont souvent des paysagistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des cheminées d'usines. Ils saisissent la réalité du monde. Et vous avez des marqueurs visuels d'un monde qui se modernise et qui s'engage vers une dépendance croissante aux énergies fossiles. On le voit dans la gare Saint-Lazare de Claude Monet, qui est prêtée à Digne-les-Bains, où cette locomotive qui marche à l'énergie du charbon dégage une très grosse fumée dans la gare. On s'est rendu compte que nos œuvres pouvaient vraiment être scrutées, regardées en tant qu'archives, de véritables fenêtres sur cette époque.
Et selon la commissaire du projet, le musée d'Orsay, dont la mission première est la conservation de ses collections, entend ainsi agir sur le terrain des idées.
Les scientifiques le disent eux-mêmes, la bataille pour le climat est désormais culturelle. Alors, il se trouve que nos œuvres ont parfois été la cible d'activistes du climat, comme vous le savez, des jets de soupe sur les tableaux. Et en fait, on partage les convictions de ces écologistes. Par contre, évidemment, on est là aussi pour protéger nos collections. Finalement, on se rend compte avec ce projet que le patrimoine naturel et le patrimoine culturel sont intrinsèquement liés, puisqu'on se dit, finalement, en regardant ces tableaux, on a envie de protéger l'œuvre peut-être, mais protégeons aussi le paysage que cette œuvre représente. La question pour le musée, c'est pas de choisir entre les œuvres et notre avenir, mais plutôt de contribuer à la création d'un futur viable qui permette la transmission de ces œuvres, des œuvres de l'humanité aux générations futures.
Le président du musée d'Orsay, Sylvain Amic, ajoute que ce dialogue entre art et science renvoie concrètement chez les musées partenaires à des préoccupations locales.
Quand on prête à Ornans, par exemple, la truite de Courbet, ça renvoie à la préoccupation des pêcheurs, des agriculteurs, des écologistes, des habitants du territoire qui se préoccupent de l'état de la rivière Lalou. Quand on prête l'inondation à Port-Marly de Sisley à Montargis, dont le musée a été lui-même inondé à 90%, cette réflexion, elle a lieu partout parce que vous avez dans tous les musées des professionnels aguerris qui sont membres de communautés scientifiques, qui ont un parcours académique très solide. Et c'est aussi des collections, qu'elles soient nationales ou locales, qui toujours recèlent des œuvres particulièrement éclairantes sur les grands enjeux de notre temps.
Et cette opération Aurélie, 100 œuvres qui racontent du musée d'Orsay, va être désormais organisée chaque printemps autour d'un sujet de société. Après le climat, il sera question du travail l'an prochain.
Merci Benoît Grossin, bon travail. Votre dossier complet sur l'art et le climat est en une du site internet de France Culture avec également un reportage au musée des Beaux-Arts de Tours. Le ciel sera changeant demain avec des éclaircies mais aussi le passage de faibles pluies sur le nord et des averses en région PACA. Au petit matin, il fera entre 2 et 10 degrés. Les maximales varieront entre 12 et 17 degrés, jusqu'à 20 sur le pourtour méditerranéen.